IMO, le congrès immobilier FNAIM, le rendez-vous de tous les professionnels de l'immobilier en partenariat avec Verlingue sur Radio IMO.
Et bonjour à tous, bienvenue au congrès IMO. 4 lettres, le congrès de la FNAIM. On est ravis de vous faire vivre ce congrès pendant 2 jours. Et là, on est avec Verlingue pour la première table ronde Verlingue. Bonjour Alexandre Cohen.
Bonjour Bérénice.
Comment vous allez ?
Bah, je suis en pleine forme. Pour nous, c'est toujours 2 jours très agréables. On va à la rencontre de nos clients, de nos confrères. Donc, c'est toujours un moment très, très agréable.
Et c'est vrai que ça démarre sur les chapeaux de roue. Il y a beaucoup de monde hein, ce matin. J'ai l'impression qu'on est tous un peu surpris par l'effervescence. Alors, avec nous en plateau, 2 invités que vous avez souhaité recevoir. Frédéric Malquier, bonjour.
Bonjour, Bernice.
Vous êtes président de l'Agence du Soleil et vous êtes également président de la FNAIM des Pyrénées-Orientales 66. Bastien Nera, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes président de Nera Immobilier. Alors vous avez des agences situées dans le Var et en Bourgogne.
C'est bien ça.
C'est bien. Deux territoires bien différents.
Exactement.
Deux salles, deux ambiances. On va en parler justement. Alors est-ce qu'on peut commencer peut-être avec une présentation de Verlingue ?
Avec plaisir. Alors Verlingue, on est un courtier d'assurance généraliste hein, pour les grandes entreprises françaises. On a été créé en 1933. On est à Quimper en Bretagne. On est présent dans toute la région, dans toutes les régions de France et en Europe également. Hein, puisqu'on a volonté d'être un vrai courtier européen indépendant et familial. Et on a une spécialité qui s'appelle Verlingue Immobilier, pour lesquels on a 90 collaborateurs et pour lesquels on veut accompagner les pros de l'IMO dans l'innovation et dans apporter plus de services à leurs propres clients.
Alors, vous êtes des clients Verlingue, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour justement sur ce partenariat ?
Alors, on a une relation très particulière à Alexandre Cohen, qui est effectivement le directeur du pôle immobilier et de Verlingue depuis quelques années, depuis presque une dizaine d'années. C'est une relation qui est établie, qui est forte de propositions pour nos métiers, effectivement, en matière de l'immobilier transaction, immobilier locatif et immobilier également en syndic de copropriété.
Et vous, Bastien ?
Alors moi, je suis un fidèle et ancien client puisque j'ai été client à l'époque de Clarence. Et moi, j'ai rencontré Alexandre dans une situation particulière parce qu'en fait, c'est au moment où je résiliais mon contrat où Alexandre est venu et on a créé un véritable partenariat. Il y a déjà... je sais pas combien d'années, mais le temps passe vite.
Une dizaine d'années, ouais.
Ah oui, donc comme quoi, quand une relation marche bien, relation
exactement.
Client, ça...
C'est beaucoup d'humains, beaucoup de
fidélité. Il y a de la fidélité.
C'est ce qu'on apprécie,
ouais. 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 Ouais, justement, c'est marrant, on en parlait tout à l'heure dans une interview où il y a une conférence cet après-midi sur la relation client. Et c'est vrai que cette proximité, elle est attendue hein, dans ce secteur-là, hein, auprès des professionnels de l'immobilier.
Tout à fait, il faut qu'on soit vraiment proche de nos clients, proche des collaborateurs, des dirigeants aussi également, puisqu'on doit vraiment leur apporter des solutions au quotidien. Et c'est tout ce qu'on met en musique qui est en place pour être vraiment le courtier de proximité.
Alors, chez Verlingue, vous êtes hyper innovant. D'ailleurs, on vous retrouve dans le livre qui est sorti il y a quelques semaines, fin septembre. 50 innovations changent l'assurance de Jean-Luc Guimbet, donc on peut trouver à la FNAC, par exemple, qui propose, en fait, qui présente des produits, hein, les 50 produits ou services innovants proposés par des acteurs du secteur de l'assurance. Et donc, vous êtes dedans.
Exactement.
J'imagine
alors,
que c'est une fierté.
Ça a été une vraie fierté. Alors, on ne s'y attendait pas. Alors, on a fait vraiment quelque chose d'innovant sur le marché de la gestion locative avec Goodluck. Et on a eu divers récompenses. Et donc, on était hyper, hyper contents de pouvoir intégrer ce livre sur les
50. Donc, c'était une surprise.
C'était une véritable surprise.
Vous n'étiez pas au
courant. On n'était pas au courant.
Comme quoi, c'est vraiment objectif.
C'est de manière objective. Exactement. Je l'ai appris quand le livre est paru.
Et c'est quoi Goodluck pour nos auditeurs ?
Alors, Goodluck, c'est un service innovant, entièrement digitalisé, qui permet de travailler tout le parcours locataire, c'est-à-dire l'annonce du bien jusqu'à l'entrée dans les lieux du candidat locataire. Et l'élément disruptif qu'on a mis en place, c'est qu'on a retiré tous les papiers, c'est-à-dire les fiches de paye, les avis d'imposition, etc. Parce que le marché et le monde de l'accès au logement, c'est un parcours du combattant. En moins de 2 minutes, un candidat locataire va pouvoir déposer sa candidature de manière totalement sécurisée, donc fini les faux dossiers à la location, pour la sécurité pour nos clients professionnels de l'immobilier. Et sa candidature en moins de 2 minutes. Et tout de suite, le professionnel sait et connaît la capacité locative de son candidat locataire. Donc, en matière de réactivité, il peut très rapidement donner une réponse favorable ou non à son candidat locataire.
Alors, on parlera de l'utilisation de Goodluck dans quelques instants. Juste avant, on va parler, comme on parlait d'innovation, comment on fait pour rester innovant ? Et vous aussi, en tant que client, c'est ce que vous venez chercher, j'imagine, l'innovation. Comment vous essayez de répondre aux attentes de vos clients ?
Alors, c'est un vrai défi d'innovation parce que que beaucoup de gens parlent, et après c'est surtout de le mettre en œuvre et de trouver les bonnes idées. Nous, chez Verlinck, on investit beaucoup dans l'innovation. On a même pour ça une Digital Factory, c'est-à-dire qu'on a une start-up intégrée. D'accord. Qui nous permet de faire accélérer nos projets de transformation. Et donc, on est vraiment accompagné dans notre démarche d'innovation. Et c'est vraiment un point capital de notre stratégie. Innover, c'est quoi ? C'est bien connaître le métier de nos clients, déjà dans un premier temps, de pouvoir identifier tous les axes sur lesquels on va pouvoir apporter des solutions. Et là, avec Goodlock, on avait plusieurs enjeux qui étaient, un, d'éradiquer les faux dossiers à la location en France. Deux, de pouvoir libérer du temps à nos clients pour pouvoir leur laisser du temps pour leur propre business, parce qu'on leur fait gagner quasiment une heure par dossier location. Donc ça, c'est du temps au profit de l'expérience client. Et donc on travaille, de manière, cette proximité, on en parlait tout à l'heure, c'est le terrain qui nous amène à réfléchir et à voir des problématiques, en tout cas, qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, de se dire comment on va pouvoir s'en sortir et trouver des solutions pour changer leur quotidien.
Donc vous êtes force de proposition une fois que vous avez analysé en fait les besoins. C'est ce que vous ressentez, vous, en tant que client ?
Alors je confirme, on est dans un marché hyper concurrentiel, un secteur qui peut être très très bien achalandé, et à partir de là, on a besoin de cette innovation. La clientèle nous le demande, on est sur, après derrière, des volumétries qui permettent à des exploitants comme effectivement Verlinck de pouvoir proposer ce genre de produit, et à nous après derrière de bien le communiquer auprès de la clientèle, et qui est toujours demanderesse. On a eu en copropriété par exemple l'extranet qui a permis à tout un chacun de pouvoir disposer de nombreux documents sur des plateformes sécurisées. On a après derrière des liens dédiés notamment par rapport à l'assurance, nous permettant d'éviter tous les faux dossiers et d'avoir le maximum de garanties. Tout ça dans l'intérêt de nos agences et dans l'intérêt des clients finaux. C'est ça l'essentiel. Et
quand vous parlez juste d'extranet, est-ce que la demande s'est intensifiée, j'imagine, depuis les confinements ?
Depuis les confinements, on a une relation qui est très dématérialisée. Pour preuve, on a une loi récente qui, du mois d'avril 2024, qui nous permet maintenant de communiquer exclusivement par lettre aux commandes électroniques à l'ensemble de nos copropriétaires pour les envois de convocation, les procès-verbaux d'Assemblée Générale. Et tout cela est dans l'air du temps. Aujourd'hui, il faut savoir que l'agence qui reste une agence traditionnelle, traditionnaliste, avec aucune évolution, cette agence-là n'a pas vocation à se développer et au moins à se pérenniser.
Alors vous, Bastien, qui avez de nombreuses agences dans différents endroits, justement, est-ce que c'est ce que vous partagez aussi comme opinion ?
Oui, alors moi, ce qui m'a beaucoup plu, effectivement, c'est à la fois le côté innovation. C'est vrai que Verlinck est force de proposition, et puis le côté, comme on disait, humain et accompagnement. Et après, il y a tous les enjeux vis-à-vis des locataires, sécuriser les locataires, mais ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est la répercussion sur les bailleurs. Parce que grâce à ces outils, finalement, ça nous permet aussi de mieux vendre notre prestation en disant, si vous passez par nous, on est capable de vous certifier les dossiers pour les locataires. Donc du coup, c'est un levier supplémentaire. Et c'est vrai qu'aussi, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la partie accompagnement des équipes. Parce qu'il y a la proximité avec le dirigeant, mais ce n'est pas nous qui sommes en contact avec tous nos clients. Donc
ça.
D'où l'importance de créer une vraie relation et un accompagnement de nos équipes. Et ça, c'est vrai que pour ça... Pour reconnaître qu'on est bien servi.
Oui, Frédéric, vous voulez rebondir.
Et oui, Bernice, ne pas oublier que nous sommes tiers de confiance. Nous sommes dépositaires d'une loi Hoguet de 1970, qui est un peu vieille, mais qui a besoin d'être réactualisée. Mais il n'empêche que, en intervenant en notre qualité d'agent immobilier professionnel, tiers de confiance, nous devons apporter des garanties à cette clientèle. Et ces garanties passent justement par des recherches et des innovations de la part de nos partenaires, surtout dans un secteur assurantiel pour nous est la clé de voûte de la réussite de nos développements futurs.
Est-ce que les clients vous disent j'aimerais ça ou ça, ou est-ce que c'est, comment ça se passe pour les besoins du client final?
Alors on a des remontées bien évidemment de la clientèle, mais après surtout la force d'un réseau comme la FNAIM qui regroupe plus de 10 000 agences immobilières avec 55 000 salariés, c'est de pouvoir se réunir dans les chambres départementales, dans les chambres régionales et après au niveau de la fédération pour pouvoir travailler main dans la main avec des prestataires comme Verlinck qui font évoluer nos métiers positivement et qui nous permettent d'améliorer nos chiffres d'affaires d'une part et de rassurer, ce que disait Bastien, de rassurer la clientèle et de jouer notre rôle de tiers de confiance par rapport à des particuliers, par rapport à des syndics bénévoles, par rapport à d'autres tiers qui souhaitent intervenir là-dedans, mais qui par contre n'ont pas cette qualité et cette sécurité.
Alors justement, on va faire un point marché. Je fais pas mal d'interviews de professionnels de l'immobilier et tous s'accordent pour me dire que depuis le début d'année 2024, alors certains sont... C'est pas vraiment la même date à chaque fois, mais il y a les prémices d'une reprise. Est-ce que c'est ce que vous constatez, vous, sur le terrain? Qu'est-ce que vous constatez? Alors, Bastien.
Alors, on parle de quoi? De la location ou de la transaction?
De tout. Transaction, peut-être. Alors, location, on va y venir juste après, mais on a un petit point global.
Alors, sur la transaction, nous, on constate... Alors, nous, on est calé sur notre exercice comptable au 30 septembre.
Ouais.
Et c'est vrai que bon, ça fait 2 années où on a un chiffre qui a pas mal baissé. Par contre, depuis la rentrée de septembre, nous, on constate effectivement une reprise. Et surtout aussi, ce qui nous pénalisait, c'était les difficultés de recrutement, de recruter des
D'accord.
commerciaux. Aujourd'hui, c'est vrai que peut-être c'est lié justement à cette effervescence. On a beaucoup plus de facilité à recruter des commerciaux. Donc, c'est bien le signe qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer.
Donc, depuis septembre?
Depuis la rentrée de septembre, oui.
D'accord.
En tout cas, nous, c'est ce qu'on constate. Alors, principalement sur la Bourgogne. Sur le Var, c'est un petit peu, parce qu'on est à la
oui.
fois sur la Bourgogne et sur le Var. Sur le Var, c'est plus difficile. On a encore pas mal de difficultés de
recruter.
De recrutement. Oui.
D'accord. Et vous, sur le Var, vous avez peut-être été moins impacté
Non,
sur
on était...
non, sur la aussi, transaction,
ouais, ouais. Ouais.
autant qu'on
ouais.
D'accord. Et comment vous l'expliquez, ça, que sur le Var, il y a des difficultés
C'est très concurrentiel, hein, parce
ouais.
que c'est vrai que c'est le même métier, les prix de vente ne sont pas les mêmes, donc les honoraires ne sont pas les mêmes, donc
ouais.
c'est vrai qu'il y a une concurrence qui est très très forte, ça attire beaucoup.
Ouais, ouais. C'est vrai que les prix dans le Var n'ont pas baissé, quasiment.
Pas beaucoup, et objectivement, qu'on vende un appartement à 100 000 euros ou une maison à 1 million, le travail c'est presque le même.
Ah bah oui, mais la com n'est pas la même. Frédéric, vous, un petit mot peut-être sur ce que vous constatez sur le marché, justement. Là, on parle transaction, après on parlera gestion plus en profondeur.
On a une reprise depuis le mois de septembre, hein, je confirme ce que nous dit Bastien. On a vécu 2 années compliquées, on était au niveau national sur un bilan à 1 200 000 ventes hein, pour un atterrissage à 800 000. 800 000 ventes, c'est ce qui se passait avant 2017-2016.
C'est ce qu'on estime pour 2024, hein, 800 000 ventes.
800 000 ventes, c'est les ratios que la Fédé et notre label économique nous donnent. Au niveau départemental et au niveau régional, bon, j'ai une chance et je vais plaider ma cause puisque je suis le président des Pyrénées-Orientales,
ouais.
le pays catalan. J'ai d'ailleurs quelques confrères catalans qui sont à côté de moi. Et ce département a la chance d'avoir un hylotropisme certain avec de la plaine, de la montagne et beaucoup de secondaires, dont le secondaire est moins touché que le principal. L'attention qui s'exerce est moins importante. Il y a des rotations qui sont également là au rendez-vous et qui nous permettent d'assurer des volumes avec une reprise constatée et notoire à partir du mois de septembre. J'espère qu'il va y avoir une envolée, que ça va continuer. On n'arrivera jamais au niveau que nous avons connu sur
oui,
les deux dernières années.
C'était exceptionnel.
C'était exceptionnel. On avait un concours de circonstances. On avait un tour pour nous qui était très favorable. Là, heureusement, la Banque Centrale Européenne, accompagnée par la Banque Centrale Française, nous donne des indicateurs que les taux vont continuer à baisser. On espère un atterrissage aux alentours de 3% sur 2025, ce qui nous permettrait de continuer à avoir ces bons chiffres et un atterrissage à 850 000 ventes sur 2025.
850 000 ventes, est-ce qu'on peut dire que 850 000 ventes, est-ce qu'on peut dire que c'est un retour à la normale? Est-ce que vous pensez, parce que avant ces 2 années exceptionnelles, quand on avait 800 000 ventes, on était satisfait.
On était très satisfait, mais ce qu'il faut savoir, cher Bérénice, c'est que nous avons développé nos cabinets, nous avons investi énormément de moyens, nous avons pris plus de collaborateurs. L'inflation est passée par là, malheureusement, et les salaires sont également montés. Donc, à nous, après, derrière, en qualité de chef d'agence et en bon père de famille, de pouvoir réguler tout ça pour pouvoir continuer à se développer.
Alors, justement, en termes de gestion locative, alors là, la gestion, c'est hyper tendu partout. Vous allez me le confirmer hein, sur vos territoires, mais on tous s'accorde pour dire que c'est vraiment national, hein, et ça s'explique par de plusieurs manières. Bah, quand la transaction est figée, forcément, ça impacte la location, hein, puisqu'il y a plus de turnover, les gens restent locataires, ils n'achètent plus, ils veulent pas quitter leur logement en plus, donc c'est bloqué. Qu'est-ce que un petit mot sur la gestion peut-être sur vos territoire. Bastien.
Alors sur la gestion, c'est vrai qu'on a enregistré beaucoup moins d'édits. Hein. On sent que les locataires sont frileux. Ils se projettent peut-être pas de déménager. Alors il y a certaines années où on avait un petit peu l'effet vase communicant entre la transaction et la location. C'est-à-dire quand l'un marchait, l'autre marchait moins bien. Mais là, force est de constater que c'est plutôt les deux en fait. Hein.
Ouais.
Et c'est vrai que alors, dans l'ensemble, on s'en sort pas trop mal, je parle en termes de volume de location. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup moins de biens disponibles sur le marché. Aujourd'hui, on a un taux de vacances. Alors, c'est bien pour la gestion, parce que forcément, l'activité, les honoraires de gestion rentrent. Par contre, pour l'activité location, il n'y a pas beaucoup d'offres disponibles. Et après, je ne sais pas sur, s'il y a des particularités régionales, nous, que ce soit à la fois sur le sud en Bourgogne. Alors le sud, ça reste quand même malgré tout plus tendu, parce qu'après, il y a aussi toute la concurrence des meublés de tourisme, Airbnb, pour pas les citer.
Ça vous impacte fortement.
Fortement, oui. Ouais. On a beaucoup de gens qui s'orientent. Alors là, il y a pas mal de changements au niveau des lois qui sont en train de se mettre en place.
Pour au niveau de la fiscalité, oui.
La fiscalité, les contraintes supplémentaires. Ouais. Parce que c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de mal sur la location.
Vous avez des propriétaires dans le sud, dont vous gériez les biens, qui vous ont dit bon, moi j'arrête, je vais faire de la location touristique. Ouais. Vous les comprenez ?
Et on a beaucoup même qui veulent acheter pour investir, mais investir pour du saisonnier.
Et vous les comprenez ?
Après, c'est sûr que financièrement, il y a des avantages et des inconvénients. Financièrement, ça peut être c'est plus valorisé. Après, il y a des inconvénients. C'est-à-dire qu'après, il faut s'en occuper. Il y a un taux de rotation qui est élevé. Il y a plus de dégradation, plus de nuisances aussi. Quand on est à la fois syndic et qu'on doit gérer des Airbnb, c'est vrai que
c'est compliqué.
C'est un casse-tête. Hein, on se fait disputer. Les gens ne comprennent pas.
Ouais, Frédéric, c'est la même chose pour vous. Alors, Pyrénées-Orientales, j'imagine qu'il y a pas mal d'Airbnb aussi.
On a énormément d'Airbnb. On a ce département qui est, comme je le disais, avec
très attractif.
Très attractif et mer-montagne. Donc, on a cette particularité, je crois, qu'on partage avec le Pays Basque. Et donc, on a une demande très soutenue de la part des clients investisseurs pour mettre sur du touristique, parce que les rentabilités vont pouvoir s'établir sur du 8, 10, 15% de rentabilité annuelle en louant quelques mois pendant l'année. Les contraintes sur le logement annuel font qu'il y a une bascule qui peut s'opérer. Après, je voudrais revenir sur ce qu'on disait en tout début de cette intervention par rapport à la contraction et à la contraction de ce marché locatif. L'attention aujourd'hui, elle est de la responsabilité du gouvernement, parce que nous avons une difficulté, c'est que depuis plus de 35 ans, des lois de défiscalisation se sont enchaînées. On a eu des Pinel, on a eu des Duflot.
Des niches fiscales, comme ils les appellent.
Des niches fiscales, permettant à nos chers bailleurs, qui ne sont pas tous des nantis en puissance, qui sont juste des Français qui souhaitent économiser pour pouvoir transmettre leur patrimoine, de pouvoir constituer ce patrimoine. Et aujourd'hui, après 35 ans de niche fiscale, elles disparaissent. Donc on a un gouvernement qui est là-dessus, qui n'a pas pris conscience de la chose et de la relation directe que l'on peut avoir, nous, et du chiffre d'affaires en perte de vitesse. Le BTP également qui est lié.
Ouais. Le BTP qui est en récession depuis le début d'année.
Le BTP qui est en récession. Ouais. 40% de chantiers en moins en France, c'est quand même colossal. Et l'offre de gestion locative est justement contrainte par cette absence de défiscalisation, un marché de la transaction qui est également très tendu, et le report au niveau locatif ne s'opère pas. Donc aujourd'hui, on a pour 10 biens qui vont être commercialisés, nous allons avoir plus de 100 candidats locataires. Quand à l'époque, nous avions pour 10 biens, nous avions une vingtaine de locataires. Donc cette tension-là, elle n'est pas bonne pour le client locataire final, parce que son revenu moyen va être impacté par ce premier poste de dépense des Français. Et ça, il faut que le gouvernement, la fédération est en train d'appuyer là-dessus. On a juste une problématique, peut-être que je devance vos futures questions, Bérénice, mais on enchaîne les ministres du logement depuis 22 mois. Nous en sommes à 4 ministres. Nous allons sûrement avoir un 5e ministre qui va être nommé prochainement. Les discussions avec Mme Létard étaient en bonne voie. Malheureusement, je pense qu'elles vont être légèrement interrompues. Et donc, nous sommes sur cette voie d'un lobbying très fort. Pourquoi ? Dans l'intérêt de nos clients finaux, les copropriétaires, les locataires, les bailleurs, la clientèle.
Oui, on attend avec impatience du coup le nouveau ministre. Et d'ailleurs, je rappelle que cet après-midi, il y a 4 anciens ministres du logement qui vont s'exprimer justement à la plénière. Alors juste, j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez. 100 candidatures pour quelques biens, c'est votre quotidien aujourd'hui, c'est surtendu. Justement, ça me permet de rebondir avec vous, Alexandre. Quand il y a autant de candidatures, quand il y a autant très peu d'offres, forcément, ça pousse au vice, ça pousse à la fraude, et c'est ce qu'on constate.
À la fraude, effectivement, puisque les locataires, un Français a besoin de se loger, c'est une des premières préoccupations des Français, et donc pour se loger, au bout d'un moment, quand ils se retrouvent à essuyer des refus dans les agences ou auprès des particuliers, ils vont se pousser à se dire « tiens, je vais un peu falsifier mon dossier de location, je vais retravailler ma fiche de paie, etc. » On a un sondage récent qui est sorti, c'est qu'un Français sur deux est prêt à faire un faux dossier pour accéder au logement. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, mais en tout cas, il aurait l'intention de le faire.
Mais ça se comprend en même temps. Je prêche, mais ça se comprend. Alors, quand on parle de fraude, ça peut être une petite fraude, hein, changer la date d'un contrat de travail, mais ça peut être aussi des grosses fraudes.
Voilà, ça peut être la petite faute. Je suis en période d'essai actuellement. Je vais dire que je ne suis plus en période d'essai. Bref, ça peut être la grosse fraude bien déguisée, bien maquillée. Aujourd'hui, il y a même des sites spécialisés qui délivrent des dossiers pour 150 euros. Hein, derrière, vous allez voir, ils vont faire un décroché téléphonique de l'agent.
Ça.
Bien sûr. Vous avez deux sites en France qui marchent bien, qui sont encore d'actualité, qui
c'est
tournent.
Fou.
Voilà. Et donc, de manière très facile, vous allez avoir un dossier.
C'est totalement illégal.
Bien évidemment,
c'est
pour ça que je ne les cite pas, mais surtout ne pas y aller.
Ouais.
Et on voit aussi une inquiétude qui est grandissante des candidats locataires, puisque on a vu aussi avec le Covid le fait que les professionnels de l'immobilier, en tout cas les particuliers, demandent les dossiers avant la visite. Et aujourd'hui, les locataires sont inquiets en se disant « Mais je vais transmettre finalement un ensemble de pièces, c'est-à-dire mes fiches de paye, mon avis d'impôt, ma carte d'identité, par une boîte mail pas spécialement sécurisée.
Oui. »
Et derrière, les risques, c'est quoi? C'est de me faire usurper l'identité. Ça peut être ça, hein, s'il y a une attaque de boîte mail. 400 000 usurpations d'identité en 2023, donc c'est énorme.
Ouais.
Et derrière, on sait que c'est, ça met en difficulté un candidat locataire. Et on a également plus de 60 000 dossiers fausses annonces sur des sites comme Le Bon Coin, Se Loger et autres, donc qui sont des fausses annonces sur lesquelles je vais déposer un dossier qui n'existe bien sûr pour un bien qui n'existe pas, et derrière bien sûr c'est là où je vais pouvoir me faire attaquer.
Et ça, c'est très important ce que vous dites, parce que on a une émission sur Sud Radio, donc grand public, et c'est vrai qu'on a eu des retours d'auditeurs qui se sont fait arnaquer via des fausses annonces. En fait, le marché est tellement tendu qu'ils voient ils voient une annonce qui a l'air plutôt sympathique, et en fait ils vont jusqu'à même verser de l'argent, envoyer des faux dossiers et puis même verser de l'argent. Alors c'est vrai que c'est très important
mentionner. C'est un vrai fléau. Donc là, avec Goodlock, ce qu'on a fait, c'est que justement on a éradiqué le faux dossier, puisqu'on va aller récupérer de la donnée en source directement.
Ouais.
Avec un parcours qui est assez novateur et disruptif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans un premier temps, dire au candidat locataire, on va accéder à votre compte bancaire pour pouvoir récupérer votre donnée et finalement calculer la capacité à régler votre loyer. C'est le premier parcours.
Et ça, ils acceptent facilement, les clients?
Et ça, ils l'acceptent facilement. Alors, on a fait 70 000 dossiers, 39% sont passés par le parcours bancaire. Donc, c'est une agréable surprise, puisque ça n'existait pas sur le marché français.
Ouais.
On tablait plutôt sur 10-15%, et donc là, on a été agréablement surpris. Le parcours qui fonctionne le mieux, c'est l'accès aux données en ligne de l'État, c'est-à-dire les impôts, la CAF et l'URSSAF. Hein, directement, on va se connecter via France Connect aux impôts, et on va récupérer toute la donnée de manière quasiment instantanée, c'est-à-dire en 40 secondes on va récupérer les revenus des candidats locataires. Aujourd'hui, on le voit qu'ils sont hyper rassurés par ce système. On intervient en tant que tiers de confiance non intrusif. Ils sont rassurés parce qu'ils se disent finalement, je sais ce que je donne, j'ai la maîtrise de cette donnée là je sais qu'elle est cryptée et sécurisée, et ne va avoir auprès du professionnel de l'immobilier que ce dont il a besoin pour pouvoir me sélectionner, et en plus ça va aller vite. Donc il y a vraiment un intérêt très fort.
C'est vrai que c'est assez révolutionnaire. Vous qui utilisez Goodlock, j'imagine que c'est un gain de temps. Il finit toutes les angoisses liées aux faux dossiers. Là, c'est vrai que se connecter directement sur les données bancaires des potentiels candidats, c'est quand même assez incroyable. Ils acceptent facilement.
C'est novateur, et notre rôle est de communiquer là-dessus, notamment au niveau des bailleurs, pour pouvoir leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt primaire. Le locataire, après, derrière, l'accepte également, parce que dans ce parcours, aujourd'hui, on ne lui laisse plus le choix. Il n'y a pas de surcoût pour lui, donc c'est ce qui est très important également dans la démarche. La loi nous interdit de faire payer un supplément là-dessus. Et il faut contrer cette fraude qui est très importante. On avait énormément de fraudes sur la partie location touristique, par des fausses annonces qui étaient publiées par des personnes qui étaient de mauvaise foi totale. Et aujourd'hui, on a un transfert sur la gestion locative. Cette tension crée, comme le disait Bérénice, cette envie de frauder. Donc à nous de la contrôler et de la juguler, et les collaborateurs sont rassurés parce que notre responsabilité civile peut être en première ligne engagée. Un faux dossier, c'est après derrière un locataire qui est installé, et le locataire, pour le faire partir aujourd'hui...
C'est compliqué en France. Hein,
c'est très compliqué. Exactement.
Bastien, un petit mot justement sur ce...
Oui, c'est vrai que l'avantage...
Cette garantie, on va dire.
Bien sûr, il y a l'aspect sécurité, ça c'est indéniable, et également l'aspect gain de temps, et c'est vrai que aujourd'hui c'est devenu vraiment dans l'air du temps que les locataires déposent leur dossier en ligne. Ça évite effectivement un temps administratif qui sert à rien. Nous, depuis le temps qu'on travaille, parce que vous aviez déjà une autre solution avant qui était...
Effectivement, on avait une solution qui était plus traditionnelle. Le locataire venait déposer sur un espace sécurisé ses pièces. Et Bastien a été un des premiers clients de Goodlock, hein, et nous faire confiance aussi, parce qu'il fallait qu'on embarque le marché aussi sur cette nouvelle innovation. Et donc,
ouais, les équipes sont ravies. Hein. Maintenant,
oui, les collaborateurs, j'imagine, ils sont contents d'avoir un outil comme ça.
Tout à fait. Oui,
c'est, ouais. Pour eux, c'est un gain de temps. Exactement. C'est comme vous dites, il y a la responsabilité, leur responsabilité qui est en jeu aussi.
Mais c'est vrai qu'on a vu les collaborateurs des agences, parce que tout le défi, au-delà de convaincre le dirigeant, c'était comment on allait convaincre finalement les collaborateurs dans les agences. Et on a vraiment travaillé cette conduite du changement dans les cabinets, parce que en fait, on avait des conseillers location qui, alors je dis pas qu'ils vivaient au travers des papiers, mais ils se disaient, finalement, le papier, c'est mon quotidien, c'est ce qui anime une partie de mon job et de ma mission. Et finalement, quand on leur a dit, vous n'avez plus à avoir ça, ils nous ont regardé avec des grands yeux en disant, ah non, mais moi, je le ferai pas. Mais qu'est-ce que je vais devenir et qu'est-ce que je vais faire, ouais, finalement? Et on a vraiment contrecarré ça en disant, vous avez gagné une heure de temps sur un dossier et vous allez le consacrer à développer la rentrée de mandat, à développer d'autres choses, à être plus proche de vos clients aussi. Et finalement, la conduite du changement se fait très rapidement.
Alors, on a parlé de la gestion locative. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui se passe un peu à l'actualité politique. Alors, on en a parlé tout à l'heure avec la motion de censure, justement, du gouvernement. Bon, là, le Congrès a été impacté, hein, puisque Valérie Létard devait venir, elle est ministre démissionnaire, donc elle ne peut plus s'exprimer. Justement, en tant que professionnelle de l'immobilier, en tant que chef d'entreprise, comment vous l'avez vécu, comment vous la vivez, cette motion de censure? Je rappelle que ça nous impacte directement le PLF, le projet de loi de finances 2025 est tombé à l'eau. Il y avait des mesures attendues dans ce PLF. Je pense notamment au prêt à taux zéro qui devait être élargi aux maisons individuelles. Alors j'imagine que ça vous concerne, ça vous impacte. Je pense aussi au boost sur ma prime rénov, sur la rénovation énergétique, les droits de succession aussi, exonération quand on achetait dans le neuf. Quel est votre ressenti quand vous avez vu cette motion de censure, le gouvernement tomber? Qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Alors d'une part, en qualité de chef d'entreprise, on se dit qu'on est dans une France qui va pas bien du tout et qu'on doit faire avec. On essaie de se projeter à court terme plutôt qu'à moyen ou long terme. Nos aïeux vivaient ça différemment. Nous, on sait que tous les 6 mois, il peut y avoir une instabilité politique, économique et sociale. Et à partir de là, on doit faire avec. Donc nos standards ont changé. Ce qui est par contre favorable, entre guillemets, c'est que la clientèle et notre rôle de tiers de confiance, je le répète encore une fois pendant cette émission, est déterminant et vraiment crucial. Parce que nous sommes les professionnels, nous sommes formés à ce droit immobilier qui est un droit extrêmement complexe, qui comprend des notions de fiscalité, de notions administratives et contractuelles. Et à partir de là, le sachant, c'est nous. Donc nous sommes, au courant de toutes ces réformes et de toutes ces informations, et à partir de là, on peut les redonner à la clientèle. Mais je vous avoue que c'est très difficile de pouvoir naviguer, on navigue à vue. C'est ça la donnée du jour, quoi.
Mais c'est stressant en tant que chef d'entreprise de naviguer. Enfin, il n'y a rien de pire, non?
Alors, Bastien, on s'adapte. Je pense qu'on est habitué, hein. C'est vrai que ça fait tellement d'années.
Vous avez les reins solides.
Oui, je pense que surtout, il faut être très optimiste pour être chef d'entreprise. C'est sûr qu'il y a une inquiétude. C'est comme à chaque fois, à chaque élection présidentielle, il y a toujours, on sent un ralentissement, une inquiétude.
Oui.
Mais après, à nous aussi de rassurer nos clients. De toute façon, le logement, c'est vrai que c'est un besoin vital. Il y aura toujours besoin de se loger. Il y aura toujours des divorces, des décès, oui, des mutations, changement de situation familiale. Donc on va se focaliser plutôt sur le positif et pas trop essayer de... Puis de toute façon, je dirais que la politique... Alors heureusement, on a la chance d'être représenté par nos syndicats, mais à titre individuel, malheureusement, on n'a pas beaucoup de pouvoir d'action, si ce n'est effectivement par le biais de nos syndicats.
Oui, et heureusement que vous êtes là d'ailleurs.
Alors moi, mon petit niveau, j'essaie d'exercer comme je peux, mais après, la fédération fait son devoir de lobbying. Et la bonne mesure qui tombe pour continuer sur cette discussion, c'est les 0,5% pour les départements. Les départements qui sont aujourd'hui dans des situations quasiment de dépôt de bilan, qui avaient besoin de ces fonds. Mais par contre, les clients acheteurs étaient en attente de cette mesure prise par les départements. Le PLF tombant, cette mesure tombe.
Tombe à l'eau.
Donc tant mieux pour nous, il y a un signal qui est envoyé à la clientèle. Et de toute façon... Il y a également un point qui est très important. On est et on restera la valeur refuge. On est le premier poste de défense des Français avec l'alimentation. On a un besoin de se loger, qu'il soit locatif ou qu'il soit en termes de propriété. On a un besoin également de résidence secondaire par le Covid. On l'a vu, il y a une envie d'avoir son chez-soi, d'avoir une accession à la propriété qui est facilitée. Et donc cette valeur refuge fait que nos métiers de la transaction continueront à se développer et à proposer à la clientèle des produits.
Alors, dans les mesures, parmi les mesures qui sont tombées, il y a le boost rénovation énergétique. On va en parler avec vous. On va commencer peut-être avec vous, Bastien, parce que vous allez recevoir un prix
C'est ça, oui, j'ai eu la bonne surprise de savoir qu'on avait été...
La meilleure performance énergétique.
La meilleure amélioration énergétique, tout à fait. Oui.
Donc c'est une rénovation que vous avez faite, celle de la tour des Aubépins.
C'est effectivement, donc on avait pris le parti il y a quelques années de se dire il y a un vrai enjeu sur cette rénovation énergétique et on a été un des premiers, un des seuls à créer un poste dédié de responsable de rénovation énergétique.
En interne.
En interne, tout à fait. Et c'est ce qui nous a permis de parce qu'il y a un vrai savoir-faire, que ce soit technique, financier, toute la partie pré-collectif, c'est chronophage tout ça. Et ben, le fait d'avoir créé ce poste-là, ça nous a permis vraiment de mettre un coup d'accélérateur. Donc aujourd'hui, on a déjà plusieurs chantiers qui ont été réceptionnés et on en a encore beaucoup à venir. Et c'est vrai qu'on est d'autant plus fiers de recevoir ce trophée, ce lauréat, parce que c'était en plus notre premier projet de rénovation énergétique, cette fameuse tour des Aubépins, qui est une tour emblématique à Chalon.
Ah, c'est Chalon-sur-Saône. Alors ça. Expliquez-nous le contexte, en fait. Comment ça s'est fait, ce chantier, justement? Comment vous l'avez obtenu?
Il y avait une vraie volonté, parce que ça faisait partie de ce qu'on appelle les passoires thermiques, hein, les passoires énergétiques. Donc c'était donc chauffage collectif, tour des années 70... et en fait, au départ, il y a eu une volonté aussi politique locale. Hein. Il y a la communauté d'agglomération, le Grand Chalon, qui avait fait un appel à projet pour les syndics, pour essayer de sélectionner quelques immeubles dans leur parc. Mais le premier projet a été long, hein, pour vous dire à peu près, pour sortir ce chantier-là, on a compté, il a fallu à peu près, on a fait une cinquantaine de réunions, donc c'est avec les copropriétaires, le conseil syndical, les intervenants, les entreprises.
Pour embarquer tout le monde.
Les élus, voilà. Et, ouais. Mais bon, aujourd'hui, voilà, on est content parce que c'est une récompense pour nous qui est très importante.
Un beau résultat. Oui. Alors, quand on parle rénovation énergétique, on pense aux bailleurs, hein, avec le fameux de calendrier d'interdiction à la location qui est fixé par la loi Climat et Résilience en fonction du DPE. Donc, ça commence dès janvier prochain pour les G. Enfin, ça a commencé en 2023 pour les pires G, on va dire. On attendait justement une proposition de loi pour un peu modifier ça, permettre aux bailleurs de les aider un peu. Bon, elle est tombée à l'eau aussi. Et en tant que président de Chambre FNAIM, Frédéric, comment sont vos adhérents par rapport à... Alors, on connaît le positionnement de la FNAIM, hein, sur ce sujet du calendrier, mais quel est le ressenti sur le terrain?
Alors, tout ce qui est syndic de copropriété dans notre chambre et en région ne sont pas très perturbés par le dossier. Les logements classés G sont excessivement minoritaires, donc ils étaient concernés par le premier calendrier 2023 et 2025, l'interdiction de louer et de relouer. Après, les F, heureusement, vont arriver sur 2028. On a un calendrier qui est plus favorable, nous permettra de travailler énormément de logements. On parle d'une donnée qui est de 1 à 4 en termes de logement G par rapport au logement F. Donc on va avoir les 3 prochaines années et on espère que le ministère va pouvoir nous aider par rapport à ça. Cumulativement, on a sur les copropriétés des plans pluriannuels de travaux qui ont été votés, qui sont votés pour les plus de 200 lots depuis 2023. 2024, c'est les 50 à 200 lots. Et à partir de 2025, les moins de 50 lots. Donc là, on a un véritable chantier là-dessus. Ces plans pluriannuels de travaux ont été votés. Ils ont été acceptés en copropriété. De toute façon, les copropriétaires n'avaient pas le choix. Et là, il y a des calendriers avec un prévisionnel de travaux sur les 10 prochaines années qui se met en place. Et cela est favorable parce que il faut prendre le mal à la racine. Un logement qui est énergivore, il est énergivore parce qu'il a une déficience au niveau de sa structure individuelle, mais aussi parce qu'il dépend d'une structure collective qui n'est pas bonne. C'est obligatoire et c'est mathématique. Donc là, le travail a été bien fait. À nous d'amener ça au niveau des règles en copropriété pour qu'après, derrière, chaque bailleur, chaque investisseur puisse prendre conscience de la nécessité de rénover les logements.
On a bien compris. Quel est le positionnement de Verlingue par rapport à la rénovation énergétique, justement?
Enfin, tout a été dit. C'est vrai que c'est un véritable enjeu en France, la rénovation énergétique. Nous, on intervient sur les sujets d'assurance. Et donc, ces travaux sont soumis à dommages-ouvrages. Hein, c'est une assurance qui est obligatoire, qui a été créée par la loi Spinetta. Et donc, on souhaite accompagner nos clients dans cette DE dommage-ouvrage verte, dite verte, pour pouvoir faciliter le parcours de souscription et avoir aussi des tarifs attractifs, puisqu'on est sur des chantiers qui sont de plusieurs centaines, voire millions d'euros. Hein, et là, on en a fait quelques-uns à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et on a même accompagné Bastien dans la rénovation énergétique pour lequel il a été lauréat. Et donc, on veut vraiment un parcours de souscription qui est ultra simple. Pour que ça aille vite, parce que Bastien l'a dit, c'est le parcours du combattant, hein, pour arriver à enchanter 50 réunions, etc. et on veut avoir des tarifs attractifs, c'est-à-dire pouvoir négocier au mieux avec les assureurs pour mettre notre petite pierre à l'édifice en se disant, bah, on a aussi accompagné ce mouvement en France et donc on veut se positionner comme le courtier de la rénovation énergétique sur l'aspect assurance.
Alors pour terminer, messieurs, on va faire un petit point sur le congrès. Alors vous l'avez dit en début, de table ronde, Alexandre, c'est important pour Verlingue d'être là. Qu'est-ce que vous attendez de ces deux jours, concrètement ?
Alors concrètement, qu'est-ce qu'on attend ? Bah, c'est de pouvoir partager avec nos clients, futurs clients aussi. Alors on passe toujours des moments agréables, puisque c'est aussi de se voir dans un contexte qui est totalement différent.
Ça fait du bien de se voir comme ça.
Et ça fait du bien, et puis on vit un marathon de congrès. Il y a eu l'UNIS, il y a eu le RENS, il y a eu différents salons, et il vient clôturer avant les fêtes de fin d'année ce congrès de la FNAIM tous les ans. Et donc c'est, voilà, on passe tout le temps des moments très agréables avec nos clients. Nos clients nous présentent aussi leurs confrères, et donc c'est de la recommandation qu'on appelle ça active chez nous. Donc on est très heureux. Les équipes aussi sont mobilisées, et donc on passe toujours deux jours très agréables sur le congrès de la FNAIM.
Et vous, messieurs, alors Bastien, vous êtes un habitué du congrès.
Le congrès, c'est notre grand-messe, hein. C'est un rendez-vous incontournable, on ne peut pas ne pas venir. Oui, c'est vrai que moi, ça fait plus de 20 ans que je vais au congrès, je crois que je n'en ai pas raté un seul, pour plein de raisons. Effectivement, il y a rencontrer nos prestataires, rencontrer nos confrères, se former, apprendre, échanger, et puis on ressort de là, on est boosté, ça nous fait du bien, ça, on se dit on n'est pas tout seul dans notre coin, donc... C'est vrai que c'est un moment vraiment incontournable. Tous les ans, la date est bloquée dans le calendrier. Aucun rendez-vous. C'est réservé pour le congrès.
Et c'est ça, justement, là, pour ce congrès 2024, vos attentes, c'est quoi ? C'est surtout échanger avec les confrères, justement, sur la période.
C'est tout ça. C'est l'échange, le partage, et puis aussi la convivialité, parce qu'on se voit souvent dans des cadres un petit peu plus stricts, alors que là, voilà, c'est une autre ambiance. Moi, c'est un moment vraiment que j'apprécie.
Frédéric, alors vous venez avec la double casquette, hein, casquette président de chambre et puis casquette chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous attendez de cette édition 2024, la QV 2024 ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi aussi, comme Bastien, je viens depuis environ une vingtaine d'années. Je suis très très jeune, moi aussi, j'ai 43 ans. Je venais quand j'étais étudiant, parce que moi j'ai une société qui est une société familiale également. C'était mon grand-père qui l'avait créé il y a 51 ans. Et mes parents me prenaient dans les valises, je venais à Paris et je venais au congrès. J'avais 15 ans, j'avais 16 ans, j'avais 17 ans. Donc c'était toujours un grand plaisir. Je suis devenu chef d'entreprise, je suis devenu président de cette belle chambre du pays catalan. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer nos confrères, de discuter avec des partenaires de la qualité de Verlingue, qui est dans cette partie innovation très forte, et de participer à des tables rondes. Et surtout, c'est que, quoi qu'il arrive, que nous soyons dans une période, pas forcément de récession, mais dans une période difficile, ou une période de véritable boom économique, comme nous l'avons connu depuis les 2-3 dernières années, on se retrouve tous là, on partage des valeurs. On partage également des valeurs, ce qui est très intéressant, avec des petits confrères, des moyens confrères ou des plus gros confrères. Il y a des énormes réseaux qui sont là. On discute, on se met tous autour de la table et on arrive à avoir ce consensus. Et ce qu'on aime bien également, c'est que on peut partager ça autour d'une coupe de champagne à certains moments de la journée ou de la soirée. Et c'est assez festif et ce qui est très agréable.
Et d'ailleurs, j'ai déjà entendu des bouteilles.
Mais moi aussi.
Ouais, je crois que c'est l'heure. 11h, ça a commencé tôt, 11h30. Bon, merci beaucoup, messieurs. Un petit mot pour la fin, peut-être, Alexandre.
Bon, en tout cas, nous on est ravis de pouvoir être présents ici. Je suis ravi d'avoir Bastien et Frédéric à mes côtés aussi pour cette table ronde. Merci en tout cas Bérénice pour cette émission. Et venez boire du champagne sur le stand, puisque l'heure se rapproche et on va pouvoir commencer à le déboucher.
Et c'est ça. Merci beaucoup en tout cas à vous trois.
Merci à tous
de nous suivre. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur Radio Immo.
IMO, le congrès immobilier FNAIM, le rendez-vous de tous les professionnels de l'immobilier en partenariat avec Verlingue sur Radio Immo.